Fais-moi une place au fond de ta bulle. Et si je t'agace, si je suis trop nul, je deviendrai tout pâle, tout muet. Fais-moi une place au fond de ton cœur.
Ja, bonjour, les mini-Lévis zuhörer von der Welle 102.9. Von unserem Sender Judaica. So geht's bei uns am Sender jede Woche ein neuer Freund, ein neuer Gast. Und das macht mir Freude. Voilà mon intro en alsacien, plus besoin de traduire, vous comprenez tous ma langue maternelle, et il sait si je, ou presque. C'est encore le moment de vous souhaiter à tous une excellente année 2024, une bien meilleure année que l'an passé avec toute cette misère du monde. Allez, Müller-André, parlons un peu du positif. Parle-nous de ton invité. Qui est ton invité? Et oui, c'est vrai, j'ai une émission à faire, une émission à gérer, fais-moi une place. J'ai invité un jeune aventurier, sportif, propre sur lui, un regard clair. Ses cheveux d'un blond californien sont tirés en arrière avec un chignon japonais. Belle allure, ce jeune homme. Bonjour, invité surprise, tu peux te présenter à nos auditeurs?
Bonjour à tous, donc je m'appelle Jérémy Gonsalves, je viens de Strasbourg et merci de m'accueillir, c'est aujourd'hui ma première radio.
Ta toute première radio, il faut toujours un début à quelque chose. Hein.
Toujours, ouais. Ouais.
Alors moi je suis très très heureux et très fier de te rencontrer, parce que je sais que je t'ai déjà peut-être déjà rencontré un jour à la SIG, il y a très longtemps. Maintenant tu as une toute autre vie, parle-moi un petit peu de ton enfance strasbourgeois, comment, où tu as grandi
Alors je suis né à Strasbourg.
À Haute-Pierre.
À l'hôpital d'Haute-Pierre. Ouais. J'ai vécu pendant 2 ans à la Montagne Verte. Mmh. Donc mes parents habitaient là-bas. Mmh. Je suis au milieu. On est 3 garçons. On est 3 frères. Depuis mes 2 ans, j'habite à Vendenheim. Mes parents ont construit à Vendenheim. Et depuis, alors j'y habite plus, mais de mes 2 ans à mes 22, 23
ans. Mais on dira que tu
habites
un peu plus tard. Alors un jour, ta maman, je crois qu'elle est, elle est espagnole et ton papa portugais, hein, c'est ça?
C'est ça.
C'est un beau mélange, ça. Hein, ça donne beaucoup d'énergie, ça.
Ça donne,
et de la lumière, sans doute.
Ça donne de l'énergie, ça donne du soleil, ça donne de la bonne humeur, ça donne tout plein de choses.
Et je crois qu'ils se sont même connus en Alsace, hein, tes parents.
Voilà, ma mère est née en Espagne, mon père au Portugal, mais c'est ici qu'ils se sont rencontrés, ouais.
D'accord. Et alors, un jour, ta maman a eu cette excellente idée, c'est de t'inscrire à la piscine de Schiltigheim pour apprendre à nager. In Schiltigheim?
Chilique, ouais. C'était passage obligé, même si on aimait déjà aller dans la flotte, c'était très important qu'on apprenne à nager, donc on a dû suivre des cours, on avait passé, je sais plus comment ça s'appelait à l'époque, les tritons, des trucs comme ça, des petits diplômes. Donc ouais, c'était passage obligatoire à la piscine pour tous les 3, c'était hyper important. Ma mère a une phobie de l'eau.
Elle a peur de l'eau.
C'est malheureusement, je pense que j'aurai jamais l'occasion de nager avec elle dans un océan, mais
tu pourras jamais l'emmener, quoi.
J'espère et j'y travaille. Bah, c'était perdu pour mon père et il est venu là il y a 2 mois déjà. Donc
c'est bien.
J'espère un jour, mais elle a une phobie de l'eau, donc c'était passage obligatoire. on devait apprendre à nager.
Et alors, tu découvres ton élément, l'eau. Qu'est-ce qu'elle t'a? Comment tu t'es senti dans cette eau? Est-ce que tu t'es senti glissé, transporté ou tu t'es noyé ou tu as étouffé dans l'eau?
Non, pas noyé, ouais, glissé, transporté. Ouais. Se sentir un petit peu voler, pouvoir descendre, couper le son et s'immerger complètement, quoi, hein, le terme.
C'est déjà quelque chose qui t'allait bien, quoi. L'eau, c'était ton truc.
Ouais, je suis bien dans l'eau.
Et alors, à l'école primaire, je sais que tu dessinais tout le temps des mammifères marins. Tu avais déjà commencé à dessiner.
Même déjà avant l'école primaire, hein, j'ai des dessins qui datent où ma maman mettait la date dessus. J'avais 4-5 ans, donc je n'étais même pas encore en primaire, mais oui, je dessinais déjà des orques et des baleines. Ça a commencé par les orques.
Par des orques. Et parce que c'est peut-être aussi parce que tu as vu un jour à la télévision Moby Dick ou Flipper le Dauphin à la télé. C'est peut-être ça qui t'a inspiré aussi.
Alors, c'est avant tout Orca. C'est un film qui est sorti
en
1977,
ouais.
Je crois. Ouais, ouais. En gros, c'est un peu comme Les Dents de la Mer, mais ouais, avec une orque. Donc, ouais, ça pourrait en terrifier plus d'un, même si derrière, il y a une morale. Ça a démarré avec ça. Je suis tombé red dingue de cet animal. J'aime déjà tout ce qui est noir et blanc. Je pense que ça a dû jouer.
Un zèbre, par exemple?
Ouais, je trouve ça magnifique. Un zèbre, je trouve que c'est un très bel animal.
C'est un bel animal, ouais, c'est vrai.
Très, très bel animal.
C'est vrai. Alors, juste un tout petit peu pour commencer à se reposer les oreilles. On va ici écouter une musiquette un peu planante, comme ça, M83, Wait. Vas-y voir, Lucas, mets-nous voir cette belle petite musique. Dis-moi, Jérémy, cette musique, elle est planante. Elle t'inspire quoi, cette musique? C'est, comme toi, une petite goutte d'eau dans cette immensité de la mer. C'est ça que ça représente pour toi, cette musique?
Je crois que si les étoiles, elles pouvaient faire du son, ça ressemblerait à quelque chose
c'est
comme
quoi,
ça.
C'est quoi, si les étoiles?
Ouais.
Ah, c'est
ça
beau
fait, ça fait planer, j'ai l'impression, ouais, quand j'écoute ça, ce genre de musique... Beau de rêver un petit peu éveillé. Et malheureusement, je peux pas encore m'emmener de musique sous l'eau, mais si je devais choisir, c'est exactement
existe,
le...
de mettre des écouteurs dans l'eau.
Ça existe, mais j'ai déjà assez d'équipement.
Tu parles à l'instant d'un endroit des étoiles, ça aussi, ça me fait rêver. Tu penses qu'on est une poussière d'étoiles, comme disait Rive? On vient de là, d'après toi?
Je sais.
Toi qui as les yeux dans l'eau tout le temps, qui a des masques tuba et des grandes palmes, on en parlait un peu tout à l'heure. C'est pareil, c'est comme la Voie lactée, c'est l'immensité des océans. Et tu nages là-dedans, tu vas voir les orques, les baleines, les cachalots. Raconte-moi ça, fais-nous un peu rêver. Comment c'est quand tu vois une immense bête comme ça à côté de toi et tu nages à côté d'eux?
Alors déjà, ce que j'aime le plus quand je suis au contact de ces animaux-là, c'est que peu importe qui on est, en fait, on a beau être le plus beau, le plus riche, le plus fort. À côté de ça, on n'est rien. Et c'est bien de pouvoir rester à sa place. Enfin, c'est bien de rester à sa place, je pense. Et ça me fait d'abord ça. Après, ça m'émerveille, ça m'impressionne, ça fait passer par tout un tas de choses. Mais déjà, à la base, je suis assez adepte de sensations fortes. Donc, de nager avec des animaux qui font entre 6 et 20 mètres, c'est impressionnant. C'est hyper impressionnant. Donc ça démarre par ça, et puis après c'est génial, quand on peut créer un contact avec un animal de 15 mètres.
Mais est-ce qu'il t'accepte, l'animal? Est-ce qu'il est d'accord que tu sois dans son milieu, dans ses océans? Comment tu sens l'animal? Est-ce qu'il te regarde avec ses petits yeux, la baleine par exemple? C'est incroyable comme c'est grand et volumineux, une baleine à bosse, c'est magnifique quoi.
Ouais, c'est magnifique. C'est vraiment trop beau comme animal. Ça a des nageoires pectorales qui font un tiers de leur corps, ça accompagne leurs mouvements, on a l'impression qu'elles sont en train de danser tout le temps, c'est génial. Après, pour les contacts qu'il peut y avoir avec elles, alors ça reste extrêmement rare d'avoir des vrais contacts ou des interactions où on a le sentiment qu'il s'est passé quelque chose. Ça peut aussi se passer, la baleine va passer devant nous, elle va pas avoir forcément envie de s'arrêter, mais... on n'aura pas fait de bruit, on n'aura pas fait de gestes brusques, on ne l'aura pas dérangé, on l'aura observé en la respectant.
Tu as l'impression que tu ne la déranges pas dans son milieu naturel?
Non, je me concentre. C'est la première chose sur laquelle je me concentre, c'est de ne pas la déranger. Donc on fait des approches toutes douces.
Tu peux te rapprocher pas nez à nez quand même. Tu n'es pas si proche que ça, si?
Alors ça, il y a des règles en fonction des endroits où je vais. Par exemple, à La Réunion, on est censé s'arrêter à 15 mètres de la baleine. On doit se mettre à l'eau à 100 mètres d'elle. On doit faire les 100 derniers mètres à la nage et on doit s'arrêter à 15 mètres d'elle. Après, elle peut décider, elle, de faire les 15 derniers mètres. Mais nous, on est censé faire ça.
Et ça t'est déjà arrivé qu'elle vienne toute proche de toi?
Oh oui.
Ah ouais, c'est extraordinaire. T'as fouetté un peu? T'as eu un peu peur ou pas?
Non.
Même pas?
Non,
même
du
pas.
Tout. Non, j'étais prêt, la bouche en cœur.
Et alors dis-moi, toi, tu as masque tuba, des immenses palmes comme ça, qui, je sais pas, qui sont...
Des palmes d'apnée,
oui. Souples comme ça, de grandes palmes. Mmh. Un peu comme dans Le Grand Bleu, quoi, comme Enzo.
Voilà, des palmes d'apnée, ouais.
Des palmes d'apnée, et puis là, donc, tu nages longtemps à côté de... Tu es longtemps dans l'eau avec elle?
Ça dépend, ça peut durer 15 secondes, parce qu'elle passe juste devant nous, on s'est mis sur sa trajectoire, elle passe, un petit coup d'œil, et puis elle continue. Comme ça peut durer 2 heures.
2 heures?
3 heures.
Là, t'as le temps de regarder, de comprendre, et même de photographier, parce que tu fais de la photo sous-marine aussi.
Ouais, c'est
avec
ça.
Avec quoi? Avec un Instamatic étanche?
Non, avec un Sony Alpha et dans un caisson Nauticam. Mais je fais de la photo sous-marine.
Et c'est grand, c'est volumineux, ça? C'est lourd dans l'eau?
Alors, dans l'eau, il est pas neutre, mais il a un petit peu de poids. Sinon, en dehors de l'eau, ça doit faire pas loin de 10 kilos monté.
Ouais. Ah, quand même, ouais. C'est quand même pas rien.
C'est un bel appareil, c'est encombrant. J'ai un grand dôme en verre devant pour les grands animaux, faire de la photo mi-air.
Donc, c'est un grand angle que tu as devant?
Oui.
Un grand angle.
Oui.
Et alors, parle-moi un petit peu de les baleines, ça vit plutôt à la surface de l'eau, dans le fil de l'eau, ou ça descend dans les profondeurs et, parce qu'il y a combien de temps d'apnée pour les baleines? Elles respirent quand et
alors, ça dépend des baleines. Il y en a qui tiennent plus ou moins longtemps. Elles sont toutes bonnes en apnée, mais ça va dépendre. Un petit baleineau qui vient de naître, il va tenir 5 minutes. En apnée, peut-être un petit peu.
Parce qu'il n'est pas encore appris l'apnée, sa mère lui a pas appris.
C'est comme nous, si on démarre l'apnée aujourd'hui, dans 2 ans, si on le fait régulièrement, tous les jours, on sera meilleur qu'aujourd'hui. Donc c'est pareil, ils apprennent à faire de l'apnée de plus en plus longue. Et donc ça dépend des animaux. Les meilleurs pour ça, c'est les cachalots, qui sont vraiment affûtés pour descendre dans les grandes profondeurs.
Tu veux dire que c'est plutôt un sous-marin, le cachalot, il va vraiment dans
Exactement.
Les grandes profondeurs.
Même physiquement, il ressemble un peu plus à un sous-marin
c'est une baleine. C'est encore plus grand qu'une baleine.
Toutes petites nageoires.
Et ça nage dans le noir, tout en bas, dans les grandes profondeurs.
Ouais, ça nage au fond, parce que ça chasse au fond, ça chasse dans les abysses. Les cachalots, ils se nourrissent de...
Mais de quoi? Ils nourrissent de quoi? Du krill, non? C'est quoi?
De calamars géants.
Ah, des calamars géants, waouh.
Alors, pas forcément géants, mais ils se nourrissent de calamars et ça se trouve dans les abysses. Donc, ils font des 1200-1300 mètres de profondeur.
Wow.
Ouais, ils font des plus d'une heure et une heure et demie d'apnée.
Il n'y a pas de problème de pression, alors, pour les baleines, comme pour les sous-marins, non?
Pas pour eux.
Pas pour eux?
Pas pour les cachalots. Ils sont conçus pour résister à la pression et ils peuvent descendre très très profondément et ce serait tellement génial de pouvoir descendre avec eux une fois, voir ce qu'ils arrivent à rencontrer au fond parce que j'ai eu l'occasion, donc les cachalots ça fait en moyenne une douzaine de mètres pour les femelles et après les mâles ça continue à pousser jusqu'à une vingtaine de mètres.
Waouh.
Et j'ai déjà eu l'occasion d'en voir plusieurs fois des gros mâles.
C'est ce qui est le plus impressionnant comme...
C'est assez impressionnant. Pour l'anim... Sans parler de scène sous l'eau, juste de l'animal
de le
proprement
voir.
Dit, le grand cachalot, les mâles, ça peut faire jusqu'à 20 mètres et ça, c'est assez impressionnant. Et ce qui est hyper impressionnant, c'est de voir les marques aussi qu'ils ont sur le visage, sur la face.
Des marques de quoi ?
Des marques de combat avec des calamars géants qui se trouvent au fond. Quand on voit les marques, les griffures qu'ils arrivent à se prendre sur le museau, on se dit que...
Et ça les blesse pas, ça ? Non, ça ? Non ?
C'est très, très résistant. Hein. C'est très, très résistant pour descendre à 1000 mètres de profondeur. Il y a énormément de pression. Ah,
Mais un calamar peut attaquer un...
Ça n'a jamais été filmé, comme ça se passe dans les abysses, mais j'imagine que le calamar, il doit se défendre. Et puis
un calamar, c'est...
Bon, les plus grands, ça doit être... Ça a dû être vu au Japon, je pense, peut-être. Pas loin d'une dizaine de mètres.
Ah, quand même ? Ah ouais, waouh.
Et vraiment, quand on voit les cicatrices des grands cachalots, là, au fond, il doit y avoir des choses.
Et un cachalot peut vieillir ? Ça peut avoir quel âge ? Comme une tortue, ça peut être...
Ça vit à peu près comme nous. Hein. Ça vit à peu près comme nous. 60, entre 60 et 80 ans, que ce soit pour les orques, les baleines ou les cachalots.
Ah ouais.
Ceux que j'ai l'habitude de côtoyer.
La maman protège son petit baleineau comment ça se passe ?
Ouais, elle le protège, elle lui apprend plein de choses. Là, pour le coup, je viens de finir la saison des baleines à bosse à La Réunion. Je viens de rentrer le mois dernier, là. Et donc là, c'est vraiment la saison où elles viennent mettre bas et s'accoupler. Mettre bas ou s'accoupler, ou juste s'accoupler. Mais en tout cas, c'est la saison des amours. Et donc là, elles viennent, elles restent 2-3 mois à La Réunion. Et puis,
parce que les eaux sont plus chaudes là-bas ?
Voilà.
Ou parce qu'il y a plus à manger ?
Non, justement pas. C'est pas du tout leur zone de nourrissage. Les baleines, elles viennent ici juste pour mettre bas. L'eau... Alors pour celles de La Réunion, c'est les baleines de l'Antarctique. Les baleines à bosse qui viennent de l'Antarctique. Leur
donc
zone de nourrissage.
C'est une sacrée route quand même.
Ouais, ouais.
Il y a un sacré chemin, il y a des milliers de kilomètres. Hein.
C'est 5000 bornes et elles savent retrouver. Enfin, c'est incroyable.
Est-ce que ça nage à quelle vitesse ? 7-8 km à l'heure, non ? Comment
non,
ça,
non, ça peut aller plus que ça.
Ah, quand
ça
même.
Peut aller plus que ça, ouais, 25-30 km/h.
Elles ont un bon moteur,
quoi. Ouais, ouais. Les plus rapides, c'est les orques, ça peut faire 60 km/h.
Ah ouais.
Mais elles font pas des grandes migrations comme ça, les orques. Elles descendent pas autant. Donc, ouais, elles viennent de l'Antarctique et c'est trop froid l'eau là-bas pour le petit.
Pour le
Donc
petit,
elles
ouais.
viennent accoucher dans les eaux D'accord. chaudes, entre guillemets, parce que c'est l'hiver à La Réunion.
Et la gestation est longue pour une baleine ?
Ouais, c'est 11 à 12 mois.
Ah, quand même !
Ouais, ouais, il y a vraiment des pas mal de choses qui nous ressemblent.
Qui nous ressemblent
elles allaitent. Ouais. Alors la baleine, c'est le seul mammifère qui éjecte le lait. Pour les autres, les cachalots, ils viennent, ils prennent la tétée, mais la baleine, c'est elle qui éjecte le lait. C'est le seul mammifère qui
D'accord.
fait ça.
D'accord, et donc le petit, le mélange avec de l'eau salée, alors
c'est... Non, c'est un lait hyper gras, ça ne se mélange pas avec la flotte. Ah. Donc il le prend avec l'eau salée, et puis après, il le filtre,
filtre
entre ses fanons. Et dès qu'il est assez gros et fort, D'accord. retour en Antarctique pour apprendre à manger.
D'accord. Et alors, quels sont les meilleurs endroits pour observer ces animaux ? Tu vas autant en Norvège pour les orques, par exemple ? Tu me parlais à l'instant de la Réunion,
Pour les baleines à bosse.
Pour les baleines à bosse.
Ouais. Alors, les orques, il y en a partout. Sauf que la Norvège, c'est le seul pays au monde où on a le droit de nager avec. Donc, on pourrait
Attends,
en voir partout.
Attends, il fait
partout.
Hyper froid là-haut, non ? Tu mets une combinaison, alors
Il fait assez frais, ouais. Il fait assez frais. L'eau, elle est à 4-5 degrés.
Waouh !
Et puis, des fois...
Là, tu restes pas longtemps dans l'eau, quand même, si ?
Si. autant que possible.
Une heure presque, non ?
Ouais. Moi, j'ai déjà fait plus de deux heures. Ouais.
Et tu grelottes pas, non ?
Non, on a du bon matériel. Et puis quand on est... Alors souvent, quand ça dure comme ça, plus d'une heure, quand ça dure vraiment longtemps, c'est qu'on tombe sur une chasse quand elles sont en train de se nourrir.
Ouais. Donc là,
des orques et des baleines à bosse.
D'accord.
Parce que celle de l'Antarctique reste en Antarctique. Mais en Norvège... Il y a les baleines à bosse de l'Arctique qui profitent de la technique des orques pour chasser. Réunir les harengs, pour arriver par en dessous la boule toute prête déjà.
Ouais, c'est des sacrés chasseurs, les orques. Quand même,
Les orques, c'est les plus grands des chasseurs. Donc,
alors, ils chassent aussi des pingouins, je crois, d'après ce que j'ai déjà vu sur... chez Cousteau, là, quand je regardais gamin, là, je regardais ces belles... Et j'imagine que tu regardais ça aussi, passionné de voir tout ça.
Mais j'ai vu
qu'il mangeait vraiment des pingouins, quoi. Il les chassait en groupe, comme ça. Et...
Alors, elles ont, en fonction de la région du monde où elles sont, elles ont toujours une alimentation différente. Et, en Nouvelle-Zélande, elles mangent plus de la raie. En Australie, elles peuvent manger de la baleine. En Patagonie, elles viennent s'échouer sur la plage, prendre les lions de mer.
Ouais, j'ai vu ça.
Elles sortent quand même de l'eau pour chercher à manger.
Mais alors toi, si tu nages à côté, là, t'es un bonbon pour elles. T'es un petit chewing-gum. T'as pas peur, non ? Qu'elles te glissent à côté de toi ou ils disent « Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui ?»
Ben, non. Non, j'ai pas peur.
J'ai pas peur.
Et puis surtout, en fait, on est à côté de leur nourriture, quoi.
Donc ils se nourrissent, ils ont pas besoin de manger.
Voilà.
Quoi.
Et puis elles sont hyper sélectes, les orques. Elles font. Ouais. Pour vous dire, elles prennent les harengs un par un et elles recrachent les déchets.
Ah oui, ok. Ah oui.
Recrachent le
squelette,
les arènes. Ils savent
manger, quoi.
C'est incroyable. Elles chassent les baleines, elles mangent que la langue. Elles chassent les requins, elles mangent que le foie. Elles sont hyper sélectes. C'est un petit peu comme si nous on pouvait se payer le resto qu'on voulait. On va pas aller choisir quelqu'un dans une combi 10 mm.
Écoute, on va écouter un petit peu de musique là maintenant, un petit peu des chants, mais nous voir Lucas un petit peu les chants des baleines ou des orques ou des grenouilles. Dis-moi, Jérémy, tu écoutes ça dans l'eau ? Tu écoutes ça avec tes oreilles ?
Ouais.
Et c'est exactement comme ça ? Ça chante ? Ce sont des messages qu'elles se...
Alors, pour le coup, ça, c'était une baleine à bosse qu'on a entendue.
Ouais, ouais.
Et c'est que les mâles qui chantent chez les baleines à bosse.
Les femelles sont muettes ?
Elles sont pas muettes, elles font des sons, elles communiquent
aussi.
C'est
pas comme les humains, parce que les femmes sont pas muettes.
Si elles pouvaient que chanter. non, mais là, pour le coup, c'est... C'est un mâle, c'est que les mâles qui chantent chez les baleines à bosse et c'est un moyen de séduction en fait pour elles.
Pour séduire les femelles ?
Voilà. C'est des scènes qu'on voit à la Réunion quand les baleines elles viennent mettre bas. Bah il y a aussi les mâles qui viennent pour essayer de s'accoupler et dans leur jeu de séduction il y a le chant, il y a le saut, il y a la protection, il y a plusieurs choses et le chant en fait partie. Et donc j'ai déjà eu plusieurs plusieurs fois, plusieurs mises à l'eau où je suis en surface, on observe baleine-baleineau en surface, et puis il y a un mâle juste en dessous, à 15 mètres, en train de chanter à tue-tête.
Wow, ça fait des moments.
Je t'aime.
Ah, c'est extraordinaire.
C'est
quelle
cool.
Belle histoire d'amour.
Et quand c'est proche, c'est assez puissant. On le ressent, ouais. On le ressent physiquement quand c'est proche.
Ah, c'est génial. Alors, ce que tu nous expliques, bien sûr, ça nous fait tous rêver. Et alors, tu es encadrant. Ça veut dire quoi que tu es encadrant des mers avec les gens? Tu les emmènes alors? Tu emmènes un paquet de gens visiter les baleines?
Voilà.
Les emmener avec masque et tuba?
C'est ça.
Comment tu as eu cette idée de faire ce métier? Tout ça, c'est venu de la piscine de Chidic.
C'était le chemin le plus rapide pour voir les baleines le plus possible. Donc, j'ai commencé par ça. La photo, c'est venu ensuite. La photo, c'est un petit peu la suite des dessins que je faisais quand j'étais petit, quoi. Mais ouais, j'emmène les gens découvrir. Je leur fais découvrir les baleines. Donc, en fonction des règles qu'il y a dans les pays, donc je fais respecter les règles et puis j'encadre et je partage.
Tu partages ça et les gens, comment ils sont quand ils sont comme toi émerveillés par ces grands mammifères?
Heureusement, il y en a beaucoup qui sont émerveillés. Il y en a beaucoup qui sont émerveillés, heureusement. Il y a 95% des gens qui sont émerveillés. Il y en a, c'est le rêve d'une vie. Il y en a, ils ont déjà fait ça, mais pour autant, ça les touche toujours autant. Donc,
ils sont conscients qu'il faut les protéger, ces animaux.
Ouais, ça fait partie des choses qu'on dit dans le briefing. On explique. On explique plein de choses et ça fait partie des choses. Il y a des gens ou des groupements qui ont tendance à sensibiliser par des images choc, où on a déjà vu des choses, du plastique avec les animaux, tout ça. Nous, on aime bien sensibiliser par la beauté. Pourquoi est-ce qu'il faut faire attention? Parce que c'est magnifique et il faut que ça reste magnifique.
Mais les pêcheurs aussi, avec leurs grandes nasses, ils font pas de dégâts? Les baleines sont pas des fois entourées de cordes ou ce genre de choses? T'as déjà vu ça aussi sur Internet?
J'ai déjà vu ça sur Internet. J'ai jamais vu ça en vrai parce que nous, quand on fait la saison, souvent les animaux ils sont proches des côtes, donc elles croisent pas des gros bateaux de pêche. Donc j'ai jamais été au contact de ça, j'ai jamais vu ça de mes yeux. Mais
ça
oui, la pêche a été un problème pour la baleine,
en
86, jusqu'à ce que ce soit abrogé. Il y a encore trois pays qui chassent la baleine, mais c'est réglementé.
Chine.
Non,
le Japon,
la Norvège et l'Islande.
Ah ouais.
Paradoxalement, il y a la Norvège.
Qu'est-ce qu'on peut faire d'une baleine? C'est quoi, du rouge à lèvres avec, qu'est-ce qu'on fait?
Non. Alors, Norvège, Islande, c'est des grands pays de pêcheurs. Donc, si vous allez en Norvège, dans n'importe quel resto, vous allez trouver un steak de baleine à la carte.
Ah ouais.
Mais c'est.
T'en as déjà mangé?
Non.
Pardon, excuse-moi.
Non.
Je me doute bien que t'en as mangé.
Non, jamais. Mais pour autant, donc, ça se trouve en grande surface, sous vide, machin, des steaks de baleine.
Waouh.
Ça n'a pas l'air mauvais. Sur le coup, si on enlève l'appellation baleine dessus, on pourrait se demander ce que c'est, on ne veut pas goûter.
Ouais.
Mais là, pour le coup, c'est que la baleine de mink. Elles ont arrêté de chasser, baleine bleue, baleine à bosse, tout ça. Elles chassent les baleines de mink, c'est des plus petites baleines. Il y en a beaucoup, beaucoup. Ils ont un quota à respecter. Et puis, voilà, c'est la seule baleine qui est encore chassée pour la Norvège et l'Islande.
Et alors, est-ce que la baleine est consciente du réchauffement des eaux, de la planète, qu'on est en train de peut-être tout gâcher en ce moment à cause des hydrocarbures avec tout ça? Est-ce qu'on ressent tout ça dans l'eau? Que l'eau, tu parles à l'instant que l'eau est souillée par du plastique ou par autre, mais également le réchauffement de la planète, la baleine, comment elle ressent ça d'après toi?
Alors, pour le coup, des baleines à bosse et les baleines bleues, tout ça, les rorquals. Je ne sais pas si ça les affecte vraiment. Après, j'ai vu encore là, il y a 2-3 jours, une émission sur les orques en Antarctique, où elles vont chasser les petits phoques sur la banquise. Et donc, il y a de moins en moins de banquises. Donc,
eh oui, c'est vrai.
Il y aura de moins en moins de petits phoques. Elles vont devoir sûrement adapter leur alimentation. C'est ce qu'elles ont fait déjà. Par exemple, là, les baleines à bosse, elles viennent se nourrir de harengs en Norvège, mais il y a 15 ans, ce n'était pas le cas.
Eh oui.
Elles ont adapté leur alimentation. Donc, elles doivent le ressentir forcément d'une certaine manière,
et
mais je pense qu'elles sont suffisamment malines pour s'adapter.
Ouais,
s'il y a des ressources à trouver, elles vont les trouver.
Écoute, on papote, on va écouter une petite musiquette que tu aimes bien, c'est très intéressant, je te remercie. On va écouter une petite musiquette, c'est ton doudou, c'est M383 Outron. Mets nous voir ça, monsieur Lucas. C'est aussi une musiquette que tu aimes bien, là. C'est un peu suspendu comme ça dans les étoiles et dans l'eau.
C'est le même groupe qu'avant, donc M83. Et pour le cas de cette chanson-là, je l'écoute. C'est la dernière chanson que j'écoute le soir avant de dormir.
C'est pas vrai.
Je sais pas si elle m'aide à rêver ou je sais pas si elle m'a poussé à faire tout ça parce qu'au final. Moi,
et tu t'endors facilement avec cette musique ?
Ouais, j'ai l'impression de commencer à rêver avant de dormir et puis je continue à rêver après.
Ah, c'est bien, c'est génial. Il faudrait que je l'écoute aussi parce que moi j'ai un sommeil un peu perturbé en ce moment. Ben voilà, c'est un bon conseil, monsieur le psy.
Elle est super, elle fait voyager.
C'est ton doudou en fait, comme je disais tout à l'heure. Alors, parle-moi un petit peu, on est déjà à 26 minutes, ça parle, c'est vachement intéressant. On pourrait parler une heure avec toi, tellement c'est beau. Dis-moi, quels sont un peu tes projets 2024? Tu sais qu'on est le début de l'année. Ben, alors, je te souhaite d'ailleurs aussi une bonne et heureuse année. J'espère
Merci.
Qu'elle se passera bien. Quel est un peu ton projet 2024? Raconte-moi.
Alors là, je commence à monter mes propres tours. Donc, Je commence à montrer mes propres expéditions avec les orques en Norvège, avec les baleines à bosse à La Réunion et sûrement avec les cachalots aussi. Mais ça va être principalement, je vais me concentrer sur les orques. Donc jusqu'à aujourd'hui, moi j'étais embauché par une société qui m'employait comme guide. Où j'allais, je faisais la saison des orques, je travaillais, j'encadrais, je faisais des photos. Et donc maintenant c'est parti, je voudrais le faire moi, à ma sauce.
À ton compte, ouais.
Comme je l'entends. Et donc là c'est parti. J'ai mes deux premières expéditions qui commencent là au mois de janvier.
Tu seras ton propre boss avec les baleines à bosse.
Voilà, avec propre boss avec les baleines à bosse.
C'est mignon.
Exactement.
Je vois, ça pourrait être ton slogan.
En plus, je suis encore à la recherche d'un nom, faudrait que ce soit un petit
que
peu
tu,
anglais.
Ouais, que tu réfléchisses un peu.
Il faut que ça reste les orques qui m'ont poussé à faire tout ça. Il faut que ça reste autour des orques. Donc là, je démarre. Ouais, en janvier, je fais mes deux premières expés.
Et tu vas où là en janvier? Tu pars où?
En Norvège.
En Norvège?
Je vais voir les orques et les aurores boréales.
Et là, tu as préparé ta valise, ton sac à dos et tout ça?
Ouais, j'ai fait ma première combi sur mesure. J'ai quelques marques qui m'accompagnent déjà. Et puis,
c'est bien. Des mécènes.
Voilà. Ouais. Je me fais un petit peu épauler comme je peux. Je crois que c'est important.
Les gens ont raison de te soutenir parce que ce que tu fais, ce que tu racontes là, c'est extraordinaire.
Ouais, c'est gentil.
Ça fait vraiment rêver, quoi.
C'est gentil. Ouais. Et ouais, c'est l'Arctique, donc toute l'aide qu'on m'offrira sera la bienvenue. On monte pas.
Et là, tu peux faire un appel, tu peux faire un appel que les gens te donnent un coup de main. On mettra ton site internet en dessous de ton émission, comme ça, si les gens veulent t'appeler ou t'aider.
Oui, avec plaisir.
Ça serait vraiment bien.
Et
il faut que tu continues, que tu tapes aux radios, les télés, il faut que tu leur expliques ce que tu fais. C'est bien beau de nager avec les choses merveilleuses de ton monde, mais il faut le dire aux autres aussi, comme aujourd'hui, tu vois. Mm. Et ça se passe bien, tu vois. En tout cas, je voulais te remercier de ta venue. On était très, très heureux de te rencontrer ici à Radio Judaïka.
Peut-être
qu'un jour, tu pourras revenir, si tu as envie de revenir.
Ben,
si tu as,
pourquoi pas.
Entre deux voyages, avant
dans
d'aller...
Dans un an, histoire de faire le point, voir l'évolution.
Dans les mers australes, avant de repartir là-bas. Et voilà, quoi. Ben, écoute, je te souhaite bonne chance. Merci d'être venu. Ça m'a fait vraiment plaisir de te rencontrer.
Eh ben, avec plaisir. Merci de m'avoir accueilli chez vous. C'était un plaisir de faire ma première radio ici.
Ouais. À la semaine prochaine, on aura un autre invité qui nous racontera une autre histoire. Et moi, je vous dis à très vite. Salut, Bissam!
Voilà, c'est fini. On attend ressasser les mêmes théories. On a tellement tiré chacun de notre côté. Que voilà, c'est fini. Trouve un autre rocher petit.